place that I go every time that you're in town. It's just me in my knots, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you. Never mind, never mind. Feels like you were never mind. Go lose myself in the arms of a stranger. And yeah, it sucks sometimes in love. You try your best, but it doesn't work. Oh,
sur un bout de papier, quelques mots effacés de toi. Moi, je serai plus jamais la même, je vais essayer quand même, et toi. C'était vrai. Oh, je reste accroché au passé. C'est tellement dépassé. C'est n'importe quoi.
If everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's got you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Stone, I heard the voices of friends vanished in
blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
sur Alouette. Morceau de vie avec Christophe Willem. Morceau de vie. Un tube, une histoire.
Développez votre pensée, Christophe.
Je pense que je vais arrêter nos séances.
Bonjour Christophe.
Bonjour.
15 ans après la thérapie de groupe, du clip Double Jeu, tu retrouves donc ta psychothérapeute incarnée par la comédienne Sylvie Laguna pour lui dire justement que tu n'as plus besoin de ces séances. Alors est-ce que c'est une pure fiction ou bien la réalité ?
Tout rejoint toujours la réalité. C'est vrai que même si c'est sur le ton justement un peu décalé comme ça, c'est vrai que la symbolique de ce clip, c'était vraiment l'envie que j'avais de dire qu'effectivement il y a la théorie, quand pendant des années on peut effectivement expliquer tout un tas de choses, mais qu'il n'y a rien de mieux, rien ne remplace l'expérience. Et du coup, je trouvais que c'était assez marrant de marquer cette symbolique, surtout qu'il y a eu pas mal de temps entre l'album qui arrive et le précédent. Et c'était un peu l'envie de se dire, bon, on va sortir un peu des sentiers battus et s'aventurer pour vivre autre chose, effectivement.
C'est une façon de dire, oui, je vais mieux, je reprends ma vie en main.
C'est les deux en fait. C'est avant toute chose l'idée de se dire que vraiment rien remplace l'expérience, de vivre les choses et justement que dans la vie il y a des hauts, il y a des bas et que ça constitue en fait le parcours d'une vie et que c'est important justement d'accepter, être dans l'acceptation des fois que bah oui, des fois on est moins dans la lumière et c'est souvent dans ces moments-là qu'il y a une remise en question et qu'il y a un travail de fond qui s'opère. Donc faut accepter, je pense, tous ces moments-là.
PS, je t'aime. Alors justement, ça parle de quoi exactement ? Parce que quand on écoute, on pense à une histoire d'amour un peu compliquée ou qui est en train de se terminer. Mais c'est pas vraiment ça finalement.
Non, c'est vrai. L'idée avec Slimane, quand on s'est vu en studio, je lui faisais part un petit peu de mes états d'âme par rapport à l'album précédent, l'album Rio, qui est un album qui a eu pas mal de difficultés à trouver son public. Alors je me suis beaucoup réconcilié sur la tournée, qui pour le coup c'est vraiment bien passé. Mais justement, c'est vrai quand justement on rencontre moins de succès à un moment, qu'on est moins dans la lumière, il y a pas mal de remises en question qui viennent, et des fois la sensation de se dire effectivement j'évolue, je change dans la vie, puisque le parcours d'un artiste est forcément lié justement avec ce qui se passe dans sa vie, et effectivement il y a eu cette sensation un peu des fois de rejet en fait, parce que c'est très difficile de dissocier ce qu'on fait de ce qu'on est quand on est artiste, et j'expliquais tout ça à Slimane, et il me dit mais moi je trouve que c'est ça l'histoire qu'il faut raconter, justement montrer que la relation qu'on entretient avec son public, elle est pas linéaire, que des fois il y a cette sensation de fuis-moi, je te suis, je t'aime moi non plus, et qu'en même temps il y a quelque chose de fondamental, il y a un lien qui est réel, et que c'est pas justement parce que sur un album on s'est pas retrouvé qu'on va pas se retrouver après dans la suite de l'histoire.
PS, je t'aime, tu t'adresses directement à ton public, à ton public que tu fais cette déclaration d'amour.
Exactement. Alors c'est vrai qu'au début c'était difficile pour moi parce que je trouvais que c'était assez impudique et que ça me ressemble pas dans la vie. Je suis plutôt assez discret et j'ai du mal à parler justement des sentiments comme ça parce qu'il y a quelque chose de très cash. Et en même temps, il a donné le ton aussi de cet album parce que ça m'a donné envie d'aller plus loin et du coup de dérouler tout un tas de titres et de thèmes surtout dans l'album qui vont explorer tout un tas de sujets de manière plus directe, plus cash. Comme ça. Donc ça a vraiment donné le ton et débloqué pas mal de trucs.
Est-ce que c'est aussi une déclaration d'amour à toi-même, une sorte de bienveillance que tu t'adresses ?
Alors c'est vrai que ça, c'est une lecture qu'on m'a amenée, que je trouve assez vraie aussi. Alors pas forcément peut-être une histoire d'amour, mais on parle d'acceptation, c'est ce que je disais là juste avant. Il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire que c'est toujours un peu compliqué quand on est justement public, d'accepter aussi son image, de faire la paix avec des fois certains fantômes du passé. Et cette chanson-là, elle a aussi cette lecture-là, le côté de se dire, bon écoute, c'est pas grave, à un moment, ne t'accroche pas à ce que tu étais et accepte aussi de devenir naturellement... de suivre l'évolution, en fait, l'évolution qu'on doit tous avoir dans la vie. Donc, il y a un petit côté un peu de réconciliation aussi avec ce titre.
Tu évoquais Slimane tout à l'heure, effectivement. Ce titre, PS, je t'aime, c'est le fruit d'une collaboration avec Slimane. Alors, raconte-nous exactement le point de départ.
Alors, le point de départ, on était sur le tournage des Restos du cœur, des Enfoirés, et on discutait, Slimane, Amel et moi, on se retrouvait à discuter comme ça sur le côté de la scène, et justement, on parlait de nos difficultés respectives, en fait, de justement trouver de l'inspiration. Et Slimane me dit, écoute, vraiment, moi, j'aimerais beaucoup essayer de faire un titre pour toi. Et puis, très vite, on s'est revus à Paris, en studio avec son équipe, et puis justement, on a assez rapidement abouti à ce titre-là. C'était assez évident pour lui. Lui, il me disait que par rapport à ma carrière, par rapport au titre qui l'avait marqué, effectivement, Double Jeu, c'était une référence évidente. Et il me disait, voilà, dans Double Jeu, t'as cette voix de tête qui est assez particulière, en fait. La voix de tête, la voix aiguë qu'on entend sur le refrain de PS Je T'aime, pour le coup. Et il me dit, voilà, je pense que pour beaucoup de gens, il y a une évidence, il y a quelque chose de très reconnaissable qui est instantané. Et il dit, je pense que sur ce titre-là, qui doit marquer ton retour, on doit retrouver ça. Ça va être un petit peu le titre qui permet de prendre les gens par la main pour les amener un peu plus ailleurs. Mais il y a besoin de ce repère-là qui est assez évident. Donc ça s'est fait de manière assez naturelle.
Quand vous êtes rentré en studio, rien n'était écrit, il n'avait rien écrit du tout.
Rien du tout. C'était avec Mer et Yakov Salah avec qui il travaille beaucoup. Et très très vite, voilà, ils ont commencé une ligne de basse. Slimane, justement, par rapport aux discussions qu'on avait eues, me dit, écoute, voilà, pour moi, ce qui serait vraiment cool, c'est que tu balances tout un tas de phrases comme ça, très directes. Et puis, il me dit, tu vois, c'est comme si t'écrivais un long texto à quelqu'un que tu connais bien. Et à la fin, une fois que t'as vidé un peu ton sac, tu dis, bon... PS je t'aime. Et dis-toi, ça serait un gimmick sympa. Et puis très vite, en fait, le titre s'est déroulé comme ça.
C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même. Pourquoi tu changes de chaîne? PS je t'aime. C'est quoi?
Et tout de suite, c'était évident de se dire, ce single va justement relancer un petit peu, carrière, mais va signer ton grand retour, ton grand comeback.
Alors, c'était évident, en vrai, pour tous les gens de l'équipe. Ils disaient, mais c'est une évidence, c'est le titre justement qui permet de retrouver l'ADN, ton ADN. Pour moi, c'était plus difficile, objectivement, au tout début, parce que l'album a tout un tas de titres qui peuvent être des fois encore plus directs. Et moi, j'étais peut-être dans l'envie, au début, d'arriver avec quelque chose qui contraste encore plus. Et puis au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que l'album s'est étoffé dans les titres, c'est vrai que c'est devenu une évidence parce que justement il permet d'amener les gens en douceur vers la suite et ne pas arriver avec quelque chose de brutal et qui plus est par rapport à l'absence qu'il y avait eu pendant pas mal de temps. Effectivement, c'est devenu une évidence pour tout le monde très vite que ce soit ce titre-là qui marque le retour.
2017, c'était donc la sortie de l'album précédent, Rio. Il y a eu une tournée dont tu as parlé tout à l'heure. Effectivement, un album qui n'a pas tout à fait rencontré son public. Quand on a un album comme ça qui marche un peu moins bien, qu'est-ce qu'on ressent exactement?
La plus grosse difficulté, c'est de se dire qu'effectivement, un album, des fois, est moins compris et surtout la frustration. Voilà, j'ai senti la frustration de ne pas avoir réussi, en fait, à convaincre ou à embarquer les gens dans cette histoire que j'avais envie de raconter sur l'album Rio. Donc voilà, c'est ça. Le plus difficile, c'est surtout de se ressentir solide. Voilà.
C'est ce que raconte l'album Panorama. D'ailleurs, il y a un titre qui s'appelle Fantôme aussi.
Oui, il y a un titre qui s'appelle Fantôme. Il y en a qui s'appelle Dans le regard de l'autre, qui parle justement de cet effet miroir aussi avec les médias, avec le public, et surtout qui explique à quel point l'album, de manière générale, c'est pour ça qu'il s'appelle Panorama aussi. Moi, c'était important de dire, voilà, Panorama, il y a cette sensation d'apaisement, il y a cette sensation de contempler quand on observe un panorama, souvent on le contemple. Donc il y a cette prise de hauteur que je trouvais intéressante justement d'amener avec cet album-là. Et en même temps, il y a ce sens figuré qui est de dire, on fait le tour de la question. Et Panorama, pour moi, c'est un album c'était un peu une forme d'exutoire, en fait, cet album. Une manière de dire, bon voilà, on va pas faire de constat, on va juste poser les choses et se dire que d'un certain côté, quand on est à l'aise avec soi-même, quand on se réconcilie avec beaucoup de choses, en fait, d'une certaine manière, on se sent solide. Et puis après, que l'album ait un succès, c'est du bonus, parce qu'à la base, on le fait aussi pour des raisons essentielles qui sont des raisons de se sentir bien, être à l'aise avec ce qu'on est et d'une certaine manière d'exorciser certaines histoires qu'ils ont pu rencontrer dans leur vie et de se dire, bah voilà, en fait, on vit tous la même chose et de désacraliser aussi un peu le côté de on est connu, on est dans une tour d'ivoire et la vie est belle. Non, on vit tous la même chose et on a un métier public, mais nos vies sont malgré tout communes en fait, et c'est ça qui est important.
14 titres que l'on découvrira sur cet album, des titres que tu n'as pas écrits. En revanche, tu n'es pas resté assis
inerte.
Tranquillement. Tu as été un véritable producteur exécutif pour cet album. Tu es allé au charbon pour aller rencontrer les auteurs, les artistes. Comment ça s'est passé? T'as passé des coups de fil, envoyé des emails, tu t'es déplacé?
Et les deux, vraiment les deux. Ça a été vraiment une première phase de recherche. Donc j'ai vraiment écouté beaucoup beaucoup de titres, beaucoup d'artistes. Je pense à une jeune artiste qui s'appelle Naya, par exemple, que j'ai vraiment découvert et pour qui vraiment j'ai eu un vrai coup de cœur. Un artiste qui s'appelle Chien Noir aussi. J'ai été vraiment, voilà, chercher des artistes émergents qui faisaient quelque chose dont la sensibilité me touchait beaucoup. Slimane, voilà, ça a été aussi l'évidence. Et puis, Laurent Lamarca. Alors, Laurent Lamarca et Jean-Étienne Maillard, c'est vraiment une équipe très, très importante dans l'album parce que c'est eux qui ont signé beaucoup, beaucoup de titres. Et avec Laurent Lamarca, il y a eu un peu cette espèce d'alchimie qu'il y a eu à mes débuts avec Zazie. C'était assez marrant. Il y avait cette espèce d'effet miroir avec lui et je l'ai vraiment poussé. Alors, c'était important parce que, effectivement, quand on comprend le process par rapport à l'album précédent dans lequel j'avais beaucoup écrit et composé, moi, j'étais assez traumatisé avec l'idée d'écrire ou de composer dans cet album et j'avais vraiment envie de pousser les gens avec qui j'écrivais à aller beaucoup plus loin que ce que moi j'aurais fait. Au tout début, moi j'ai commencé à écrire sur les thèmes que j'avais envie d'aborder et très très vite en fait, j'avais tendance à édulcorer les choses ou à m'axer sur l'esthétisme des mots et du coup ça atténuait en fait le côté cash et direct dans lequel je voulais être.
Quand est-ce que tu as compris ça justement que tu ne voulais pas écrire pour cet album ?
Alors, il y avait le côté que je voulais pas au début parce qu'il y avait ce trauma. Et après, il y a le côté, quand je me suis mis à écrire, il y avait le côté de me dire, non, en fait, je me rends compte que moi, j'ai édulcoré trop les choses. Donc, il y a eu deux étapes, en fait. La première, j'étais un peu bloqué. Et la deuxième, ça partait à chaque fois dans un truc que je trouvais, en tout cas, satisfaisant, là où j'avais envie d'aller. Et très, très vite, en fait, j'avais tendance à adoucir ce que je disais. Et je me disais, non, c'est un album dans lequel, justement, faut pas chercher à adoucir, faut pas chercher à enjoliver les choses, parce que, pour justement rentrer aussi dans l'intimité de celles et ceux qui nous écoutent, il faut aussi se livrer. Et quand on comprend qu'en fait, sa vulnérabilité, ça devient vraiment une force, et que justement, c'est là que ça touche, en fait. Et ça, je l'ai compris par la suite, et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était beaucoup plus percutant de pousser les auteurs avec qui je travaillais à aller plus loin, mais même eux étaient surpris, c'est-à-dire que des fois ils me décrivaient des choses par rapport à ça a donné de nombreuses heures de discussion, et des fois ils m'écrivaient des choses, ils disaient, non mais là, tu vois, par exemple, t'as envie de dire ça. Alors, dis-le, parce qu'en fait, si tu me l'écris comme ça, en fait, moi, c'est ce que moi, j'écrirais, et du coup, on va être dans un truc qui va être esthétique, mais qui va manquer, en fait, de côté cash, et qui surtout, voilà, je voulais un album qui ne soit pas lisse.
Et ce qu'on remarque à l'écoute de cet album, c'est que il y a moins de machines en fait. C'est peut-être un peu plus épuré, si on peut dire les choses comme ça. Beaucoup
c'est
de
moins sophistiqué en fait. Oui. Je dirais parce que il y a quand même des programmations. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que faire un album à l'heure actuelle, même un titre qui semble totalement acoustique, il y a quand même une production derrière parce que c'est ce qui donne aussi une identité sonore à l'album. Mais c'est vrai que ça c'était le parallèle aussi avec ce côté plus direct des textes, puisque les textes avait une place très importante dans l'album. D'ailleurs, aussi par rapport aux albums précédents, tous ont toujours été faits par rapport à la musique. Même, je pense, à des titres comme Double Jeu. Hein. Les titres avec Zazie, c'est la musique qui inspirait les textes. Là, c'est vraiment les textes qui ont inspiré la musique. Donc du coup, la musique, elle vient sublimer les choses, mais elle ne vient pas étouffer le sens de ce qui est raconté. Et du coup, pour aller plus loin, c'est vrai que c'est Jean-Étienne Maillard, donc justement qui fait partie de ce duo Laurent Lamarca et Jean-Étienne, c'est à lui que j'ai confié la réalisation de l'album. Et ça a été vraiment un travail de ping-pong permanent où je disais non, là en fait, peut-être que ce serait mieux qu'il y ait moins justement de production, ou alors qu'on en ait beaucoup à tel endroit, mais qu'après il y a un gros contraste, par exemple sur les couplets, parce que je trouvais que c'était ça qui était intéressant, c'est ça qui mettait vraiment en lumière le texte. Et le même travail a été fait aussi sur les tonalités des titres. C'est-à-dire, alors, sur PS Je T'aime, on l'entend sur les couplets, la voix est plus grave, plus proche, en fait, de ma voix parlée. Et je trouvais que c'était plus intéressant aussi parce que ça donnait plus de corps au texte et on n'était pas dans un exercice de style ou dans quelque chose de démonstratif. Et je trouvais qu'effectivement, ça donnait plus de poids et une importance plus grande à la narration elle-même, en fait.
Double Jeu, impossible de ne pas évoquer ce titre un an après ta victoire, donc à l'issue de la quatrième saison de Nouvelle Star. Donc tu es propulsé sur le devant de la scène avec ce morceau, énorme carton. Mmh. Est-ce que tu as encore en tête des images de cette période? Comment est-ce que tu as vécu cette espèce de tourbillon?
Mais c'est très confus dans ma tête. C'est vrai que des fois, on me rappelle des choses que j'ai vécues à ce moment-là, mais j'ai tellement été happé par quelque chose de dingue que j'ai quelques flashs qui me reviennent, mais c'est assez confus. C'est assez bizarre ce que je dis, mais même des fois, certaines séquences de la Nouvelle Star, en fait, je m'en rappelle quand des fois dans des télés, on me rediffuse certaines séquences, mais c'est pas précis. C'est assez bizarre, en fait. C'est en même temps très très lointain, et en même temps, c'est presque du domaine d'un truc que j'ai du mal à réaliser, d'avoir vécu. Donc c'est très bizarre.
La Nouvelle Star de cette saison.
Le 8 juin 2006, ton nom résonne face à Miss Dominique. Mmh. Tu remportes donc cette édition. Là encore, est-ce que tu te souviens de ce moment-là où ton nom?
Là, oui, je me rappelle parce que je me rappelle du visage de mes proches, parce qu'on avait chacun nos proches dans le public. Et en fait, c'est ça, ces périodes-là, je me rappelle beaucoup des réactions des gens, plus que ce que moi j'ai ressenti réellement. Et c'est en voyant leur réaction que je réalisais un peu ce qui se passait, effectivement.
Dans cette émission, on t'a rapidement surnommé la tortue. Alors c'était l'un des jurés
C'était Marianne James.
C'était Marianne James qui t'avait surnommé ainsi. Est-ce que t'as tout de suite accepté ce surnom?
Ah oui.
Au départ, il y avait un peu de moquerie, puis finalement c'est devenu assez affectueux.
Ben moi j'ai vu comme ça en fait, je trouvais que c'est plutôt affectueux, puis je me dis bon, un surnom ça aurait pu être la hyène, bon là par exemple c'était beaucoup plus violent, donc la tortue a quand même un côté, mais en plus ça me correspond bien, c'est-à-dire que au-delà du côté physique et de l'attitude que j'avais, moi je suis plutôt assez lent. Bon, on a bien compris, vu l'absence qu'il y a eu. Non, mais c'est vrai que je suis plutôt assez lent et à pas trop me précipiter en fait, donc ça, en vrai ça me correspond plutôt.
Double jeu, évidemment, fruit d'une collaboration cette fois avec Zazie. Là encore, c'est elle qui est venue vers toi. Comment ça s'était passé?
Alors là, non, c'était moi, via Olivier Schultes, qui était le directeur musical de La Nouvelle Star, qui bossait avec Zazie à ce moment-là. Et je lui disais, c'est vrai que quand je suis sorti de cette émission, parce que nous, on était très à l'écart. Bon, on remet dans le contexte, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout. Donc, on ne savait pas du tout ce qui se passait à l'extérieur. On vivait dans un hôtel avec tous les autres candidats. Et quand on est sorti, on a compris tout ce qui se passait. Enfin, c'était assez hallucinant ce qu'on a vécu. Et là aussi, j'ai compris, il y avait tout un tas de personnes qui voulaient m'écrire des titres. Et moi, j'écoutais beaucoup de musique anglo-saxonne. Et c'est vrai qu'en musique française, Zazie, elle a toujours eu une place très importante parce que j'étais hyper fan de sa musicalité et de ses textes. Et je trouve que les deux se rejoignaient parfaitement. Et donc, j'en parle à Olivier Schultes et je dis, j'aimerais beaucoup travailler, en tout cas la rencontrer. Et donc, je l'ai rencontrée. Et en fait, elle était dans une logique de me dire, bon, je vais le rencontrer parce que voilà, c'est quelqu'un qui il y a une espèce de raz-de-marée autour de lui et Olivier lui avait beaucoup parlé de moi. Et en fait, quand elle est arrivée, c'était dans un restaurant, elle est arrivée au restaurant, elle me dit écoute, voilà, je suis très flattée parce que je sais que beaucoup de gens veulent travailler avec toi et que tu as envie de me rencontrer, ça me fait plaisir, mais je suis pas très à l'aise avec l'idée, avec cette idée-là, c'est pas contre toi, mais avec cette idée-là. Et puis en fait, très vite, elle m'a demandé ce que j'avais envie de faire et elle a compris très vite que j'avais aucune limite en fait, et ça l'a beaucoup amusé, et donc c'est comme ça qu'on s'est mis à travailler ensemble.
Double jeu, c'était un peu ton alter ego peut-être, Zazie?
Mais je pense qu'en fait, à cette époque-là, tout ce qu'elle m'a écrit, c'est des choses qu'elle n'osait plus écrire pour elle, en fait. Donc il y avait cet effet-là aussi assez marrant, parce que elle voyait que moi, il n'y avait pas de limite, justement. Peut-être que elle, au moment où elle en était dans sa carrière, elle était en train vraiment de finaliser quelque chose, son ADN, parce que c'était vraiment à la jonction de l'album Rodeo, l'album Totem, c'était cette période-là. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle était en train d'asseoir complètement son univers très, très particulier. Et donc je pense qu'avec moi, elle a pu aller sur des chemins dans lesquels peut-être elle s'interdisait d'aller, en fait. Donc il y avait cette espèce de ping-pong qui était hyper intéressant.
Et d'ailleurs, elle n'a pas signé que Double Jeu, puisqu'elle
non,
a écrit
beaucoup, hein.
D'autres titres déjà sur l'album Aventaire, et puis sur les albums suivants aussi.
Oui, sur les albums suivants, elle a écrit pas mal de morceaux. Après, elle a fait des textes sur des titres que moi j'avais écrits. Donc ça, c'était aussi marrant. Et donc il y a toujours eu en filigrane Zazie qui était dans le secteur. Après, sur cet album-là, sur Panorama, Panorama. C'était un vrai choix aussi de me dire, justement, on parlait tout à l'heure du parallèle du clip, l'idée aussi de se dire de sortir un peu des sentiers battus, c'était sortir aussi d'une zone de confort. C'est vrai que quand on travaille depuis très longtemps avec la même personne, je pense que pour les deux, c'est aussi intéressant à un moment de s'aventurer ailleurs, peut-être pour mieux se retrouver après et continuer l'histoire. Mais en tout cas, c'était important là, sur cet album-là, d'avoir une écriture différente et aussi un regard différent. C'est vrai que dans l'album, à l'exception de Naya, je crois, dans l'album, il y a que des hommes qu'on écrit. Et c'est aussi intéressant d'avoir cette lecture-là, en fait. Donc ça change aussi, dans le côté peut-être plus cash, ça change aussi la perception des choses.
Caché derrière la porte, à l'affût de ma chambre, il suffit que j'en sorte, mes fantômes m'attendent.
Si tu rencontrais là tout de suite le jeune Christophe Durier qui se présentait au casting de Nouvelle Star, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Oula, qu'est-ce que je lui dirais ? Je dirais qu'il faut vivre les choses à 100% et d'arriver à se réconcilier avec soi-même pour ne pas être dépendant du regard des autres.
Ça t'aurait servi à l'époque peut-être d'avoir ce genre de conseil ?
Oui. Je pense que oui, à ceci. Ça m'aurait servi. Mais bon, rien remplace l'expérience. Je pense qu'on a beau nous prodiguer des conseils incroyables, en fait. C'est comme dans une histoire de couple. Quand des fois vous êtes en couple avec la mauvaise personne, vous avez tout votre entourage qui vous le dit, qui vous le redit. Mais vous avez besoin de vivre les choses pour vous rendre compte. Donc, je pense que vraiment rien remplace l'expérience dans la vie. Donc même, vous voyez, quand on fait des psychanalyses, des choses comme ça, c'est très intéressant pour mettre en relief par rapport à ce qu'on vit. Mais rien remplace l'expérience. Et la psychanalyse a un intérêt que si vous vivez en parallèle les sujets sur lesquels vous êtes en train de travailler, en fait. Sinon, ça reste des théories.
Merci beaucoup, Christophe Willem.
Merci à vous.
C'était Morceaux de vie, une création originale Alouette, à réécouter en podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute et alouette.fr.
You were nouvelles du jour ne sont pas bonnes. Guerre à l'Est, effet de serre, qualité de l'air dégradée. Serré dans le métro, serré au cou, je défais mon col. État du jour impliqué, les marques sous les visages ont des marques. Pas assez de richesse, trop de désir, pas assez de bonheur pour tout le monde. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, c'est du vol. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, c'est du vol. Une ambulance passe, le sang à l'heure. Il faut bien que quelqu'un meure. Je remonte chez moi. J'allume les infos, se plonge tout droit dans les égouts. Je regarde l'heure, tu n'es pas là. J'imagine ce qui pourrait arriver, non, n'imagine pas. Dehors, il pleut sur ceux qui n'ont rien. Serré dans les tentes, sous le métro aérien. Ferme les yeux, déjà non, ne les ferme pas. Je fais des heures sup d'amour.
Nobody, nobody. nobody, nobody, nobody got you the way I do. J'ai pas envie de rester, pas envie d'essayer, pas envie de regarder ma vie part en fumée. Quand je vois dans tes yeux qu'en fait toi tu t'en fous de ce que j'ai dans le cœur, de ce qui reste de nous. Comment ne pas vouloir partir quand t'essayes pas de retenir les éclats qu'on a pu vivre et nos premiers sourires. Dis-moi pourquoi. J'ai pas envie de pardonner, je veux plus te regarder. Et si je peux pas t'effacer, au moins je veux avancer. J'oublierai bien plus tard que t'avais pas envie, que t'avais pas le temps, que toi tu t'en foutais. Des petites éraflures, des grandes égratignures, ce qui reste à l'intérieur, ce que j'ai dans le cœur, je sais pas pourquoi. Que les étoiles contemplent mes larmes et qu'elle décide le bien du mal. Que les étoiles contemplent mes larmes. Que le temps va s'y emporter le mal. Et comme le contemple mes larmes et qu'elle décide le bien du mal. Que les étoiles contemplent mes larmes. Que le temps va s'y emporter le mal. Et comme le contemple mes larmes, que le temps vacille et emporte.